d'État, on a demandé de faire les conclusions, et Jean-Jean m'a proposé cet exercice, qui n'est pas l'exercice que je préfère, mais puisqu'on a envie de le faire. Alors, je serai assez, assez bref. Je me méfie des gens qui disent qu'ils seront brefs, parce qu'en général, ils ne le sont jamais, mais moi, je pense que je serai assez bref. Mais je voudrais quand même souligner le grand intérêt de ce colloque. J'ai trouvé que les interventions étaient toutes de qualité et elles ont prouvé la validité de l'hypothèse initiale formulée par Olivier Jean-Jean, qu'il a aussi très bien expliqué dans son ouverture, qu'on pourrait résumer par l'idée que étudier les doctrines autoritaires et totalitaires, et aussi en même temps, parce qu'on ne peut pas faire l'un sans l'autre, aussi les régimes autoritaires et totalitaires a une vertu heuristique majeure. C'est-à-dire qu'on comprend probablement mieux, c'est l'esprit de la comparaison, son propre système, si tant est qu'on a encore un système non autoritaire, si on va regarder de l'autre côté ce qui se passe lorsqu'on étudie justement ces régimes autoritaires et ces doctrines autoritaires. Et je pense qu'il y a là un gain de connaissances très, très important. Et l'ensemble des contributions, à mon avis, l'a démontré, et donc je voulais le signaler. C'est d'autant plus important que j'ai quand même fait un petit travail préalable, moins important que ceux qui ont fait une intervention, évidemment, qui était un travail d'ordre bibliographique. Et en français, par exemple, la littérature est quasiment inexistante, à part le grand livre d'Olivier sur le nazisme, Justifié l'injusticiable. Il n'y a pas grand-chose sur les doctrines autoritaires, il y a très peu de choses aussi sur les régimes. Et même dans la langue anglaise, bon, on cite toujours Juan Mix, bon, il a été traduit en français, son livre, en 2004. Il y a un récent livre de Ginsburg, sur 2014, de Hirschhoff, je crois. Mais il y a pas, il y a quelque chose de Sajot, on va Sajot aussi sur ces questions-là, mais il y a très peu de littérature. Et c'est surprenant, parce qu'il y a beaucoup de régimes autoritaires. Voilà. Et encore, la liste était plus longue, je rappelle, Olivier l'a pas dit ce matin, mais qu'au départ, il était prévu une intervention sur le Japon, une intervention aussi sur la Tunisie, sur l'Israël.
Sur Israël.
Israël.
Non. Sur l'Espagne.
L'Espagne.
L'Espagne, Franco. Enfin, donc, malheureusement, à la fois dans l'histoire, aujourd'hui, évidemment, on aurait pu rajouter à la liste la Turquie, qui est un cas malheureusement éloquent de ce qu'est la démocratie libérale. Donc, l'objectif du colloque a été, à mon avis, entièrement rempli. J'espère, Olivier en parlera tout à l'heure, pouvoir publier ce colloque. Et puis également, une remarque non classique, c'est à la fois l'unité et la diversité, Olivier l'a dit tout à l'heure. Il y a quand même une diversité assez frappante, quand même. On a du mal de temps en temps à trouver un point commun entre l'État portugais de Salazar et puis l'État iranien d'aujourd'hui. Donc il y a à la fois des différences temporelles, évidemment, mais même spatiales, qui sont assez frappantes. Ce qui fait qu'on peut se demander, c'est quelle unité, finalement, l'unité du propos. Et je voudrais quand même, dans cette conclusion, quand même militer un peu en faveur d'un thème qui, en fait, a été peu traité, parce que sinon, c'était pas l'objet, mais quand même la validité, la distinction entre régime non autoritaire, on peut appeler libéraux, et régime autoritaire ou totalitaire. Il se trouve que, évidemment, j'ai lu un article que j'ai évidemment tout oublié, mais enfin, j'ai lu l'idée centrale de Boïtis qui prétend qu'il y a une différence de degré, pas de nature, avec un relativisme évidemment très à la mode chez les spécialistes, si on peut dire, de la science politique. C'est un livre paru à découverte, je retrouverai s'il faut, pour le critiquer, évidemment. Mais il y a un vrai défi pour tout juriste d'essayer de distinguer les deux, entre un régime autoritaire et un régime non autoritaire. Et je voudrais donner deux exemples. Un exemple qui m'a beaucoup frappé, qui prouve la validité de la distinction. La question du secret, qui est un élément, et la publicité. La publicité, c'est un élément déterminant des régimes constitutionnels, libéraux. Eh bien, en Allemagne, dans l'Allemagne nazie, à partir, je crois, des années 40, Hitler a produit ce qu'on appelle les Führererlass, c'est-à-dire les ordonnances du Führer qui étaient secrètes. Donc personne ne savait plus quel était le droit positif, donc à l'époque nazie. Et c'est un exemple que je donne souvent aux étudiants pour expliquer ce que c'est qu'un régime vraiment autoritaire. C'est-à-dire qu'on ne sait même plus ce qu'est le droit. Donc il y a dans l'étude l'étude des régimes. Et, alors évidemment, c'est quelque chose que la doctrine, pour le coup, là, c'est la limite du sujet, la doctrine ne peut pas rendre compte de cela, parce que c'est... Olivier va compléter, parce qu'il connaît l'auteur qui en parlait, mais enfin, c'est un exemple extrêmement intéressant. Et l'autre exemple intéressant que je voulais signaler, quand même, c'est qu'il existe en français une littérature, quand même, intéressante, de communisme, sur la question des dictatures. C'est le livre un peu trop oublié, de André et Francine de Michel, qui ont publié en 1973, au PUF, dans la collection de Maurice de Verger, un livre qui s'appelle « Les dictatures européennes ». Il étudie la Grèce, l'Espagne, le Portugal, donc ce sont des communistes. Alors évidemment, les dictatures européennes, comme par hasard, le communisme disparaît, puis se distille, mais il ne faut pas faire un amalgame entre la dictature de prolétariat et les dictatures militaires. Donc, on écarte ça dans la préface, donc il y a deux lignes pour préface. Bon, évidemment, donc, comme tout le monde le sait, les dictatures communistes n'étaient pas communistes selon les communistes. Mais, dans cet ouvrage, il y a quand même une théorie intéressante, puisque pour des communistes, ils essaient quand même de dire qu'il y a une différence entre les dictatures et les régimes libéraux. Et je voudrais ici citer ce passage qui me paraît assez excellent, qui est page 14, qui dit « La véritable distinction entre l'État libéral et les autres se trouve au niveau de la signification du droit et de la valeur qui lui est accordée. Dans les États libéraux, le droit sociologiquement oblige même l'État. Il lui arrive certes de le violer, mais ces violations sont ressenties comme telles et sont l'objet d'une réprobation sociale. Et l'autorité qui s'en est rendue coupable croit toujours utile de les nier ou de se justifier. Autrement dit, le droit n'est pas simplement idéologique. Dans les dictatures, au contraire, le droit, quel que soit son contenu, n'offre aucune sécurité, car le respect de la règle en tant que telle ne fait pas partie des valeurs que le régime s'impose à lui-même. Le droit est uniquement idéologique. Et il donne un exemple. En somme, contrairement à un dicton célèbre, les démocraties libérales ne se distinguent pas des dictatures en ce que si l'on sonne chez un citoyen à 5h du matin, ce ne peut être que le laitier et non la police. L'État libéral, quand il entreprend de se défendre, peut parfaitement donner à la police le pouvoir de sonner chez un citoyen à 5h du matin. La différence est que si les textes fixent la limite à 5h, la police des États libéraux ne sonnera pas à 4. Et si elle le fait, le citoyen pourra, sans risquer d'ennui majeur, ne pas ouvrir la porte. Fin de citation. Donc, à travers cet exemple, ce livre sur les dictatures européennes, on voit quand même qu'il y a, à mon avis, une nécessité très importante de continuer à distinguer les régimes libéraux des régimes non libéraux. Et je finirai, c'est une conclusion rapide, je crois que ce sera rapide, sur la question peut-être qui a été un peu peut-être éludée, mais qui est vraiment très importante, c'est qu'est-ce qui caractérise une constitution autoritaire? Finalement, on l'a vu à propos de Pérol, par exemple, que certains potentats veulent constitutionnaliser. Et donc, l'interrogation, c'est de savoir s'il s'agit véritablement encore de constitution, et c'est évidemment la difficulté que pose l'étude du régime, des régimes autoritaires, c'est que, évidemment, ces constitutions sont en porte-à-faux par rapport à le contenu habituel qu'on donne à la constitution, contenu constitutionnaliste ou libéral. Et donc là, il y a une difficulté qui a été évoquée notamment par Karl Rubinstein, qui distingue entre constitution nominale et constitution libérale. La plupart des constitutions autoritaires sont souvent des constitutions nominales, ou elles sont souvent, et c'est ce qui me paraît très important, souvent des constitutions qui ne sont pas écrites. Et ce qui les caractérise, et ne sont pas globales, et on l'a vu à mon avis à propos de Vichy, c'est que ce sont des actes successifs. Les actes constitutionnels de Vichy, que j'ai un peu étudié cette année, sont extrêmement intéressants parce qu'il y a une sorte de mobilité de la constitution. Un élément indispensable de la constitution, c'est sa stabilité. Dans ça, il y a la même chose pour Franco, avec les restes fondamentales, les lois fondamentales. Il me semble qu'il y a un élément aussi propre à la constitution. Donc ça serait, à mon avis, l'objet d'un autre colloque, d'essayer de montrer quel est le contenu des constitutions. J'ai dit que je serais court. Je remercie Olivier Jean-Jean pour avoir organisé parfaitement cette journée. Et je remercie aussi beaucoup tous les autres intervenants pour la qualité de leur intervention. Et je laisse la parole à Olivier qui va clore ce colloque.